Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
Mais bonjour Dave Noël.
Bonjour Antoine.
Dave Noël, c'était notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, auteur entre autres d'une récente biographie de Chartier de Lotbinière chez Boréal. Et il vient nous visiter de temps à autre. Ça fait deux semaines en fil, on aime ça, dans ce qui s'apparente, Dave, à une chronique livre.
Oui, pour le moment, oui.
Oui. Il y a des livres historiques intéressants qui paraissent. On aime bien ton regard sur ces livres-là. Et aujourd'hui, tu nous parles du Godin, c'est-à-dire Gérald Godin, la biographie que vient de faire paraître l'historien Jonathan Liverlois.
Oui, aux éditions Lux, c'est un ouvrage, une biographie assez massive quand même, 500 pages. L'auteur, c'est ça, on le qualifie souvent d'historien, mais à la base, il est professeur au département de littérature, théâtre et cinéma. Il s'intéresse beaucoup aux liens entre l'histoire littéraire et intellectuelle au 19e et 20e siècle. Et Godin, on peut dire qu'il réunit vraiment les deux parfaitement, ces deux intérêts, puisqu'il a été poète-politicien ou politicien-poète dans l'ordre, quand même une importance.
Donc, t'as failli dire ploète.
Oui, c'est en raison d'une greffe de gencive que j'ai eue hier. J'ai un peu de mal à parler ce matin.
Mais ça paraît pas.
Mais je suis là quand même pour
oui,
toi, Antoine.
Formidable.
Donc, c'est ça, Godin, c'est ça, l'ouvrage est préfacé par Rouba Gazal, qui est une des trois candidates pour être porte-parole féminine de Québec solidaire dans la course qui va se terminer en novembre. Donc, elle est députée de Mercier, tout comme Godin l'a été pendant... en fait, il a fait quatre mandats complets.
Godin inspire beaucoup Québec solidaire. On se souvient d'Amir Kadir qui aussi a pris comme la relève de Godin ou a mis son premier mandat sous le patronage symbolique de Godin. Puis Rouba Gazal continue dans la même lignée.
Ben d'autant plus qu'il était aussi député de Mercier, c'est le successeur de Rouba Gazal.
Exactement.
Donc, c'est ça. Godin, qui est-il? Il est né à Trois-Rivières en 1938. Un point intéressant, il a grandi à 64 mètres exactement de la résidence de Duplessis. Donc, c'est un contemporain de Duplessis. Et souvent, l'Hivernois va le qualifier de duplessiste de gauche. Parce que Godin, malgré les apparences, c'est quelqu'un de très pragmatique. C'est un politicien. Quand il va le devenir, c'est un politicien vraiment... qui va se révéler politicien, en fait, comme par ses habitudes, par sa façon de parler aux électeurs. Donc, il va vraiment être un duplessiste, mais de gauche, tout simplement, à l'inverse de Duplessis. Il mène sa vie à Trois-Rivières. Il devient journaliste au Nouvelliste en 1959. Et c'est vraiment son premier métier, en fait, c'est d'être journaliste. Il va faire plusieurs journaux. Il va faire Le Nouveau Journal, qui est un journal éphémère, en 1961. Mmh. Il va se retrouver à Radio-Canada. Il va ensuite, de là, passer à l'Office national du film en 1969, puis à Québec Presse. Donc, Québec Presse, qui est un journal qui est aussi disparu. Donc, Godin a eu tendance à se retrouver dans des médias qui ont fait naufrage. Il y a aussi Le Jour, d'ailleurs, qui était le journal indépendantiste de l'époque.
Ça fait penser à celui qui a été le directeur du Nouveau Journal dont tu as parlé, Jean-Louis Gagnon, qui a toujours... Moi, je me souviens, je l'avais interviewé. Il est décédé maintenant, évidemment, M. Gagnon, mais il m'avait dit... J'ai fermé plusieurs journaux, dont Le Canada, Le Nouveau Journal. C'est une mauvaise habitude chez moi.
Oui, puis mais en même temps, ça nous rappelle, ça nous replonge dans notre époque, parce qu'en ce moment, on est très pessimiste sur l'avenir des médias, mais dans ce temps-là, il y avait vraiment plusieurs journaux qui disparaissaient.
Oui.
Il va aussi diriger les éditions Parti Pris, donc on a la revue Parti Pris, mais Parti Pris va aussi publier des livres, dont le fameux « Nègre blanc d'Amérique » de Pierre Vallière, qui va être édité par Godin. Et d'ailleurs, Godin, il va être emprisonné pendant la crise d'octobre. C'est un peu un moment mythique de son parcours, de sa vie. Il est emprisonné donc pendant la crise d'octobre. Dans le cadre des mesures de guerre, on arrêtait tous ceux qui avaient le moindre lien réel ou supposé avec la gauche indépendantiste plus radicale.
Presque 500 personnes en tout ont été arrêtées sans mandat à ce moment-là. Il faut toujours le rappeler.
Mais l'Hivernois rappelle, ça c'est intéressant, que Godin n'était pas si loin que ça non plus des mouvements radicaux, notamment avec le FLQ. Donc, il y avait des amitiés qui menait vers le mouvement. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais laisser les lecteurs le découvrir dans l'ouvrage.
Mm-hmm.
L'épisode va beaucoup marquer Godin, il va y revenir souvent. Par contre, il ne va pas nécessairement être amer envers Robert Bourassa, qui était le premier ministre du Québec à l'époque.
À l'égard de Pierre-Éliott Trudeau.
Oui, oui. D'autant plus que Trudeau, ça avait été un modèle pour lui quand il était à parti pris à l'origine. Donc, il a vécu plusieurs croisées de chemin dans sa vie, Godin. Ça, c'en est un. Bourassa, il va rester quand même assez respectueux envers lui. Et ce qui nous mène à son élection de novembre 76, le poète va battre le premier ministre dans son comté de Mercier.
Il va battre Bourassa. C'est vraiment incroyable, ça, qu'en 76, ça arrive.
Puis un rappel intéressant, c'est qu'on a souvent la vision du candidat à bicyclette qui est resté dans l'imaginaire par rapport à Godin, mais Duvernoy rappelle que c'est plus tard, ça. Mais même Parizeau va faire cette erreur-là dans un documentaire sur Godin. Ils vont en parler comme s'il avait toujours été comme ça, mais alors qu'en 76, on n'est pas tout à fait là encore.
Qu'est-ce que tu veux dire, candidat à bicyclette?
Parce qu'il y a eu un documentaire où on voyait justement Godin qui avait d'ailleurs le cancer à ce moment-là, qui enfourchait sa bicyclette et qui allait se promener dans les rues de Montréal pour faire campagne.
Ah oui.
Et on a associé ça à toutes ses campagnes précédentes, alors que c'est vraiment plus vers la fin qu'il va faire ça. Mais tout de même, en 76, il va perdre sa bedaine en montant les escaliers sans cesse du plateau Mont-Royal. Donc, il va vraiment se...
Il y a du déplacement actif. Là.
Oui, déplacement actif quand même, oui. Puis c'est vraiment rapidement, il va s'imposer comme un député de comté qui est proche de ses citoyens. Même, Livernois raconte un épisode où, à un moment donné, pour venir en aide à un électeur ou un habitant de Mercier qui est en difficulté, il va débrancher sa propre télé chez lui pour la brancher chez ce monsieur-là qui pouvait plus sortir, qui était malade.
Ah oui.
Et le soir même, Pauline Julien a piqué une colère folle en disant « Qu'est-ce que tu as fait là? Où est la télé?
»
Donc, c'est le genre de choses qu'il faisait sans rechercher nécessairement de gloire par rapport à ces gestes-là. C'est vraiment quelqu'un...
Il avait le cœur sur la main.
Oui, vraiment, c'est un cas... C'est ça, Livernois, c'est pas une biographie, c'est pas une tentative de l'idéaliser, mais quand même, il y a des moments qui font de lui un personnage très sympathique.
On termine la lecture en se disant que c'est un grand homme. Est-ce que tu dirais ça?
Oui, mais en même temps, un homme quand même de terrain, c'est pas il est pas dans les décisions. D'ailleurs, en 76, il n'est pas nommé ministre immédiatement.
Non, c'est ça.
Il faut attendre 1980, après le premier référendum, pour que Lévesque le nomme enfin ministre de l'Immigration. On sait que René Lévesque se méfiait beaucoup de ses anciens collègues journalistes. Donc, il y a d'autres députés ex-journalistes qui vont patienter longtemps avant d'être...
Ça tranche avec François Legault, qui n'arrête pas d'aller chercher les journalistes.
Exactement.
Je referme la parenthèse.
Oui. Mais donc, ça, il va finir par apprendre à le connaître et lui faire confiance. Et il ne sera pas déçu parce que Godin va rester fidèle à Lévesque jusqu'au beau risque. Il va d'ailleurs adhérer au beau risque. Et ça, c'est intéressant parce que Godin, souvent... On imagine quelqu'un d'idéaliste qui fait aucun compromis radical. Mais non, il va suivre, alors qu'il est très indépendantiste, mais il va adhérer au beau risque, il va vraiment être fidèle au chef. C'est vraiment un politicien qui se révèle comme ça. Et aussi, l'ouvrage revient évidemment sur la fameuse entrevue de Michel David, que Michel David, qui était au soleil à l'époque, il rencontre Godin, et Godin vide son sac par rapport à Pierre-Marc Johnson, qui est le successeur de René Lévesque.
Ça, c'est en 88.
87.
Hein? 87.
Ouais, et là, ça oblige Parizeau à devancer son retour. Parizeau qui espérait peut-être attendre à 89 aux élections pour prendre la couronne.
L'entrevue, au fond, fait sauter carrément Pierre-Marc Johnson. Je me souviens, ça a précipité sa démission.
D'autant plus que René Lévesque...
J'étais pas vieux, là, j'avais juste 20 ans, là, Dave. J'avais pas encore 62.
Tu étais conscient.
Oui, c'est ça. Oui, j'étais vraiment conscient à 20 ans. Et je suivais vraiment beaucoup la politique. Je me souviens que ça s'était arrivé très vite, la démission de Johnson.
Oui, c'est une surprise.
Quelques temps après le décès de René Lévesque, qui avait provoqué une commotion au Québec, 3-4 jours de deuil avec des retours dans le passé, ça avait vraiment replongé tout le monde dans... C'est comme la fin de la période post-référendaire, 87-88.
C'est un changement de cycle.
Vraiment.
Et donc, je disais tantôt que Godin était très fidèle à Lévesque, il a été beaucoup moins envers Johnson, donc qu'il a un peu trahi, en quelque sorte. Puis en parlant de trahison, en 92, Godin est vraiment dégoûté par l'affaire Morin, l'affaire Claude Morin, quand il apprend que l'ancien ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes de René Lévesque avait collaboré avec la GRC. Donc là, il y a un épisode là-dessus où Godin explique, il compare en fait Claude Morin à Judas l'Iscariote. traître ultime. Puis pour lui, si le référendum de Charlottetown de 92 a été un succès, c'est parce qu'il n'y avait pas de taupe. Donc lui, il fait une espèce de corrélation un peu étrange. On pourrait lui dire qu'en 95, officiellement, il n'y avait pas de taupe non plus et ça a été un échec pour le mouvement qu'il défendait. Mais donc, il était décédé déjà en 95. Il décède.
Pour le livre que je prépare sur Claude Morin et la GRC, j'ai trouvé une phrase de Gérald Godin juste au moment où il l'apprend.
Ouais.
Et sa première phrase, ça a été de dire « Quand on couche avec la police, on attrape des morpions. »
Oui, c'était direct.
Oui, c'est ça.
Oui.
C'était imagé comme peut l'être le langage d'un poète.
Oui, tout à fait. Et donc, il décède le 12 octobre 1994 à 55 ans d'une tumeur au cerveau. Donc, c'est une fin précipitée, tragique, parce qu'il raconte que même vers la fin de sa vie, malgré sa maladie, il prenait l'autobus Montréal-Québec. Il arrivait à la gare du Palais pour monter au Parlement. Et il faisait son travail de parlementaire dans l'ombre, malgré sa maladie, alors qu'il aurait pu sauter des semaines.
Mais
il venait quand même. Donc, c'est vraiment c'est un récit vraiment intéressant et qui va au fond des choses. Souvent, il y a des biographies qui restent en surface. Il y en a d'ailleurs peut-être un peu trop de ces biographies-là qui ne font que survoler.
Alors que là, on apprend des choses dans cette biographie de Jonathan Livernois.
Même si on n'est pas fasciné par Godin, l'ouvrage nous le rend fascinant. Et avant de terminer, on va écouter un extrait du discours de victoire de Godin de 1981, la plus grande victoire du Parti québécois. Je l'ai choisi notamment pour le propos, mais aussi parce qu'on entend très peu parler de cette campagne-là électorale qui est un peu dans l'ombre du référendum de 80, de la victoire du PQ de 76. Donc, on va écouter Godin en 81.
En 1976, on a décapité une partie libérale dans Mercier. Il s'en est jamais remis. En 81, on a ouvert le Parti québécois aux néo-québécois. À compter de ce soir, je le dis à tous les membres du Parti québécois, c'est possible! C'est possible! La communauté grecque a voté PQ cette année pour la première fois de son existence!
C'est vraiment un extrait intéressant, Dave, que tu as choisi. Ça vient d'où déjà?
Oui, ça vient du film Québec, un peu, beaucoup, passionnément, un film de 1989 de l'ONF.
Oui, c'est un beau film d'ailleurs, sur notamment la relation entre Godin et son épouse Pauline Julien.
Surtout le dernier segment où on voit la maladie progresser, c'est vraiment très personnel, donc oui, effectivement.
Et l'extrait que tu as choisi est intéressant aussi parce que ça porte sur la conception du Québec. De Gérald Godin. Hein. Il voulait vraiment aller chercher les néo-québécois. Ce discours-là, on le trouve aujourd'hui, surtout à Québec solidaire, et moins au Parti québécois. Ça, il faut le souligner. Ouais. J'en ai même parlé avec le chef du Parti québécois récemment. Donc, je vous invite à écouter cette interview de la semaine passée. Ben, merci beaucoup, Dave.
Merci, Antoine.
Tu reviens la semaine prochaine, peut-être?
Peut-être.
Coudonc, tu redeviens notre chroniqueur.
Tu deviens d'habitude,
oui. Oui, c'est ça. Je rappelle que Dave Noël est journaliste et historien. Alors, merci encore. Cube Radio.